RMC.
GG, 7 et match.
GG7 et match. On a une quarantaine de députés qui ont déposé une proposition de loi qui obligerait les médecins libéraux à s'installer dans les territoires, vous savez, les provinces, les villes qu'on dit être les moins bien dotées, le tout étant de lutter contre les déserts médicaux. Alors, il y a quelques statistiques qui ont été données par les députés. Ces 40 députés qui sont de tous bords politiques, hein, d'ailleurs, hein, c'est assez œcuménique. 3 fois plus de généralistes par habitant dans les Hautes-Alpes, par exemple, que dans l'Eure. 23 fois plus de dermatologues à Paris que dans la Nièvre, 33 fois plus de pédiatres toujours dans la capitale que dans l'Indre. Donc, ils disent, bah, on n'a qu'à appliquer aux médecins ce que l'on fait aux pharmaciens. On régule l'installation des médecins libéraux. On ne leur laisse plus la liberté d'installation. Ouais. Une équipe dit oui, Jean-Baptiste Djebari, Zorabitant. Une équipe dit non, Olivier et Jérôme. Les 60 secondes au docteur Marty, c'est parti.
Bon, déjà, ils vont les envoyer partout, puisque les déserts aujourd'hui en France, c'est partout, quoi. On va faire tomber quelques idées reçues. D'abord, sur les pharmaciens, on nous dit, mais les pharmaciens ont des quotas. Mais les pharmaciens, c'est eux qui l'ont demandé, parce qu'à une époque où ils étaient trop nombreux, le rapport entre les zones où il y avait trop de pharmaciens et pas assez de pharmaciens, c'était de 1 à 7. Pour les médecins, c'est à peine une demi-fois plus. Donc, on n'a plus que des déserts, ou des zones qui sont en voie de devenir des déserts. Pour ce qui est du paiement des études, on dit, ah, mais la France leur paie les études, il n'y a qu'à les obliger à s'installer. Les internes, ils bossent, 70% d'entre eux bossent plus de 48 heures par semaine, ils bossent pour 6 euros de l'heure, 27% d'entre eux ont des syndromes dépressifs, un interne se suicide tous les 18 jours et ils tiennent à bout de bras les hôpitaux périphériques. Et on veut qu'ils remboursent en allant s'installer, mais on est devenu fou. On est en train, on a des zones en voie de désertification, on veut prendre des médecins, les obliger à aller ailleurs, mais alors on va créer des déserts quelque part pour boucher notre trou. C'est du shadok, ça rime absolument à rien. On a loupé l'aménagement du territoire. Ces gens-là transforment les conséquences de leurs actes politiques en cause, et ils ne voient pas que chaque désert est différent. La problématique, c'est qu'un désert, c'est une empreinte digitale. Si on ne regarde pas qu'est-ce qui a fait que les médecins sont partis de cette zone-là, on n'y arrivera pas.
Voilà, Jérôme Marty a terminé.
Il a été bon, hein.
Réponse.
C'est pour ça que je me suis mis avec Jérôme.
Réponse des deux autres qui sont déjà en soins palliatifs.
Dans l'au delà déjà.
Ah oui.
Là, je pense que Jérôme a dit beaucoup de choses qui sont d'ailleurs justes. Ouais. Je pense qu'il y a un problème démographique. Il y a quand même une fausse concurrence qui a été organisée par les médecins eux-mêmes dans les années 70 pour justement faire le numerus clausus, avoir plutôt peu de médecins pour que les médecins généralistes vivent bien. Et c'est ça en fait qui se retourne aujourd'hui contre la démographie, contre les médecins. Par ailleurs, les médecins qui étaient quand même, pour certains, bien installés en politique, assez forts au Parlement, aujourd'hui, ont peut-être moins de capacité de lobbying qu'avant. Après, moi, je pense qu'il faut essayer de regarder les choses avec un peu de distance. On a des systèmes parfois publics qui fonctionnent avec le Royaume-Uni, par exemple, système public qui fonctionne avec des médecins qui sont essentiellement salariés. On a des systèmes privés aux États-Unis qui fonctionnent essentiellement avec une médecine privée. Et en France, c'est l'inverse.
C'est un peu hybride, nous.
C'est même complètement hybride. C'est qu'on a, grosso modo, tout socialisé, mais on a des médecins libéraux, privé. Et c'est ce système-là probablement qui dysfonctionne un peu. Donc moi, je ne suis pas forcément pour, mais je pense que malheureusement, un jour, on y viendra. Parce que tous les systèmes d'incitation qui sont légion...
Oui, mais en attendant un jour, il y a des gens qui n'ont pas de médecin.
Voilà. Je peux lui répondre, à monsieur le ministre.
On préfère pas, mais...
D'abord, la chance de la France, précisément, c'était d'avoir une médecine libérale forte à côté d'un hôpital fort. Et la seule profession ou le seul secteur d'activité qui avait été capable de mailler le territoire et d'amener le soin aux patients, c'est la médecine libérale. Et si la médecine libérale est tombée, c'est qu'elle a été abandonnée par les politiques qui ont fait un hospitalocentrisme et qui l'ont mal fait quand on voit l'état de l'hôpital aujourd'hui, qui ont laissé tomber la médecine comme un fruit mûr. Et aujourd'hui, on se retrouve avec moins de médecins partout et des zones désertifiées. Mais les zones désertifiées, cher Djebari, c'est pas des problèmes de déserts médicaux, c'est des déserts tout court. C'est qu'on a loupé l'aménagement du territoire. On avait un truc qui s'appelait la DATAR à une époque, qui aménageait le territoire. On l'a totalement laissé de côté. Et aujourd'hui, on a des Français qui sont pas égaux entre eux. C'est-à-dire, on a des Français qui ne trouvent pas de médecins. On a dit maintenant, on va leur donner des infirmières à la place. On a dit aux internes, vous ferez une quatrième année, vous irez bien la passer dans les zones désertifiées. On a enlevé les secteurs publics, se sont barrés d'un certain nombre de zones. On a laissé des banlieues difficiles augmenter et la République présente périclité. Enfin, tout ça, on ne s'en est pas occupé.
Et aujourd'hui,
on a le culot de montrer les médecins du doigt en leur disant salaud, allez vous installer là où on ne s'est plus occupé des zones. Mais ça, c'est pas comme ça qu'on y arrivera.
Contre, est-ce que tu reconnais qu'on est allé un peu au bout des incitations? Parce qu'aujourd'hui, quand tu t'installes et que tu es médecin, que tu vas t'installer en zone rurale, dans le Limousin, mais ta quantité d'aide. T'as des aides pour les équipements, tu peux mutualiser plein de choses, mais t'as des rémunérations sur objectifs du service public, enfin, des aides pour t'installer,
une incitation,
on est allé jusqu'au
bout. Mais pourquoi ça marche pas? La vraie question, elle est là.
Ouais, ben justement, c'est
d'abord,
la
une des raisons, c'est que la médecine est devenue le deuxième métier du ménage. C'est-à-dire que souvent, le conjoint ou la conjointe a un métier encore plus technique que le médecin. T'iras lui trouver un boulot dans la Creuse. C'est très difficile. Ils arrivent avec des enfants, donc dans les zones hyper rurales où il n'y a pas d'école, c'est difficile aussi. Dans les zones hyper, dans les villes, Paris est le premier désert médical, ne nous trompons pas, hein. Paris est le premier désert. Pourquoi les médecins ne s'implantent pas dans des arrondissements où la vie est chère? Mais très simplement parce qu'à 25 euros, ils ne peuvent pas installer leur entreprise médicale. Ils s'en sortent pas, ils n'y arrivent pas. On nous dit le salariat va remplacer. Mais le salariat, les médecins sont aux 35 heures, nous on bosse 55 heures sans les gardes. Mmh. C'est-à-dire, et en plus, en une heure, on voit 3-4 patients. Donc ça veut dire que si tu prends un médecin qui est un libéral, tu le mets en salariat, tu aggraves le problème. Parce qu'il verra encore moins de monde. Or nous, quand on rentre chez nous le soir, on a le grand désespoir d'avoir laissé un certain nombre de patients au bord de la route et de ne pas avoir pu les voir. Parce que la demande de soins explose et que nous, on est de moins en moins nombreux parce que le système est une pyramide inversée qui fait que chaque fois que tu enlèves une tranche, la tranche qui arrive est beaucoup plus faible et donc le problème s'aggrave. En 2032, nous en serons revenus à 2022 aujourd'hui, à la même problématique. On est devant une courbe qui ne va cesser de baisser avant de remonter.
Zor habitant.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est bon, d'abord, c'est que ce soit oui ou non, les argumentaires tiennent la route et sont factuels. Mais il faut bien commencer par réparer tout ça par un bout de quelque chose. Je suis assez d'accord que, j'allais dire, contraindre, c'est pas la solution. Mais n'empêche que c'est peut-être la première piste qui peut avoir un effet de domino sur le reste. Parce que les déserts en France tout court, il y en a plein, c'est vrai. Déserts de commerce, déserts de transport, déserts d'école, scolarité, etc. Et qu'à un moment donné, je pense que si les médecins sont redéployés sur le territoire, c'est aussi peut-être le début du commencement de réparer ces déserts, parce que c'est un vrai sujet. On voit aujourd'hui, depuis le Covid, le déplacement des populations vers les zones beaucoup moins urbanisées, un peu plus rurales. C'est un phénomène qui s'est amplifié. On voit bien que tout l'ouest de la France a été pris d'assaut, ouais, et que maintenant qu'il est un peu saturé. Oui, mais non, il n'y a pas que, il y a aussi dans la Vendée.
Oui, mais est-ce que le travail s'installe?
Oui, mais justement.
Si c'est pour aller télétravailler à 2 heures de ton boulot.
Oui, mais j'allais dire que ça va générer et créer forcément des modifications de, à la fois de la façon de travailler, les écoles, etc.
Non, mais moi, je veux bien qu'on fasse. Vous voulez des solutions?
Non, mais moi, je veux bien qu'on fasse tous les constats.
On les a, moi, je vous résous le problème des déserts dans les 2 ans.
Oui, mais il n'y a pas que les déserts.
Non, mais attendez.
Il n'y a pas que les déserts médicaux.
Moi, je vous dis qu'on peut résoudre la problématique dans les 2 ans. On a un problème d'attractivité de ces professions. On les a massacrés et aujourd'hui, les jeunes qui sortent de la formation médicale mettent entre 8 et 10 ans pour s'installer. En gros, on a 6000 personnes qui sortent de la fac chaque année, là, actuellement. Ça veut dire que si tu fais une péréquation avec la moyenne d'il y a 10 ans, à peu près, tu as 5000 étudiants par an qui vont mettre 10 ans à s'installer. Tu en as 50 000 qui attendent là de s'installer. 50 000, on les a. Ils ont la meilleure formation du monde parce que l'école de médecine de française, c'est une des meilleures au monde. Et on ne fait rien pour qu'ils s'installent plus vite.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Déjà, il faut rendre attractive la profession. Et ça, ça passe par plusieurs choses. Un, il faut nettoyer cette profession. Nettoyer, ça veut dire qu'il faut enlever tout un tas d'actes qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être, type les arrêts de travail d'un jour, les certificats de sport redondants, toutes ces choses qui vous prennent du temps et qui font que vous avez moins de temps à donner aux patients. Il faut simplifier cette profession.
Mais qui les fait?
C'est-à-dire, il faut simplifier.
Les fait?
De quoi?
Les arrêts.
Mais le patient peut le faire tout seul. L'arrêt de travail d'un jour, il peut très bien le faire seul.
Ah bon?
L'arrêt de travail, le certificat de sport que je fais pour le gars qui vient me voir pour le
faire
foot.
Un petit arrêt de travail.
Qui vient me voir pour le foot. Mais tu peux légiférer et rendre une procédure, une norme qui fait que le type est surveillé quand même. Pour le type qui vient me voir pour le foot et qui un mois plus tard vient pour la muscu et qui un mois plus tard vient pour la pétanque. Un seul certificat suffit. Ça veut dire simplifier. Ensuite, le nettoyer, je veux dire. Simplifier, ça veut dire qu'il faut enlever le poids administratif qu'on a dessus, on a tout un tas de poids, de temps de non-soins qu'il faut enlever et permettre ça. Et ensuite, le fait de faciliter, il faut autoriser les jeunes, par exemple, à exercer dans plusieurs cabinets. Ça, aujourd'hui, tu ne peux pas. C'est appelé médecine foraine, c'est interdit par l'ordre. Tu peux pas. Il faut aussi, si je veux, moi, allouer un jour aux déserts médicaux, il faut que je puisse avoir un remplaçant qui va s'occuper de mes patients pendant que je me déplace. Ça, c'est interdit aussi. On peut pas. C'est facile à mettre en œuvre. En 2 jours, tu le mets en œuvre.
Ouais, un peu plus de souplesse.
Et puis ensuite, abordons la problématique tarifaire. À 25 euros, on est au plus bas de la nation. On est au plus bas d'Europe. Nous, on dit 50 euros. Vous l'avez entendu, on a fait 4%, on nous a dit, mais ça fait le double, etc. 50 euros, si on met dans ce prix-là, toutes les forfaits que l'on peut avoir, les différentes aides qu'il y a, vous les mettez dans le tarif, ça coûte en gros 1 milliard à 2 milliards par an à l'État. Et si tu fais ça, et qu'on s'engage, nous, à prendre mieux en charge l'addictologie, les ALED, etc., pour 1 euro dépensé, je vous garantis 5 euros de bénéfices pour l'État. Donc c'est pas une dépense, c'est un investissement. Mais l'État ne veut pas le faire parce qu'il ne connaît pas la médecine libérale et il ne la connaît tellement pas qu'il l'a totalement oublié.
Pas mal ce plan, Marty.
Rejoignez Jérôme Marty dans sa campagne. Non mais
alors, on fait la pause.
Simplement, il y a aussi peut-être un problème. On peut pas à la fois vouloir plus de médecins et les obliger à aller s'installer dans les endroits où ils veulent pas vivre. Ça marche pas. C'est-à-dire que tu vas pas embaucher des gens en disant écoutez, faites 10 ans d'études, mais en plus, on va vous imposer.
Il y a un plan. On va regarder où on en est. Alors, est-ce qu'on doit obliger les médecins libéraux à s'installer dans les déserts médicaux? Une équipe dit oui, Zora, Jean-Baptiste. Une équipe dit non, Olivier et Jérôme. Attention, on y va. On monte le résultat à la mi-temps.
Ouh,
il prend une ordonnance, une sévère.
Mais oui. Les gens souffrent tellement, non mais c'est sûr quoi.
Non mais évidemment. Ils souffrent tellement, il y a tellement. Eh oui. Ouais, non mais c'est clair.
Non, mais c'est, j'y répondrai après. Après
la est-ce que tu penses qu'on étudie flinguer le Marty là
ouais, pas,
Non, pas flinguer. Les tontons flingueurs sont passés.
Il a d'autres arguments. Normal, oui, ouais,
dans un instant, Olivier qui est avec nous, il nous appelle de l'Orne, il est professeur de SVT. Dans quelle équipe est-il? Il nous le dira et avancera lui aussi ses arguments.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
L'IGG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On continue notre discussion sur l'installation dans les déserts médicaux. Une équipe dit oui, Zora, Jean-Baptiste. Une équipe dit non, le docteur Marty, accompagné d'Olivier Truchot. C'est un autre Olivier, tiens, qui est avec nous. Il appelle de l'Orne. Bonjour.
Un joli prénom.
Bonjour, Olivier.
Bonjour, Olivier.
Alors, professeur de SVT, équipe oui ou équipe non?
Moi, équipe oui.
Pourquoi?
Parce que moi, j'habite une ville de 20 000 habitants et je fais mes impôts comme tout le monde. Et puis, pour mon dentiste, il est à 80 km, mon ostalement à 50, mon dermato à 50. Donc, je vois pas pourquoi je n'aurais pas de spécialiste à ma disposition. Et ensuite, moi, je suis prof, j'ai fait mes études, j'ai fait 5 ans d'études et on m'a pas demandé, j'ai été là où on avait besoin de moi.
Bah, vous êtes fonctionnaire, oui. Ce que n'est pas un médecin.
Oui, mais bah, les médecins sont payés par nos impôts aussi.
Ben non. Pas plus que, qu'un architecte ou un notaire.
Ah bah, s'il n'y avait plus de remboursement, il y aurait beaucoup moins de travail pour les médecins.
Oh là là, ne croyez pas ça. Regardez la courbe des ostéopathes, comparez-la aux courbes des généralistes. Les ostéopathes ne sont pas remboursés, la courbe ne cesse de monter, leurs actes sont à 70 euros.
Oui, mais
ne croyez pas ça, les choses changent, monsieur.
Oui, mais il y avait quand même un moyen simple. Plutôt que de supprimer le numerus clausus, c'est de faire une liste d'attente et demander à ceux qui étaient sur la liste d'attente d'accepter d'aller dans les déserts médicaux.
Non, mais ce n'est pas un problème d'acceptation ou de pas d'acceptation, c'est qu'il n'y ait pas de désert tout court. Le problème, c'est qu'on désenclave un certain nombre de villes. Le problème, c'est qu'on donne les moyens à la ville d'être attractive, exactement comme on doit donner à cette profession le fait d'être attractive. Le problème, c'est pas d'avoir démoli complètement cette profession et puis ensuite de dire bon, on vous a bien démoli, on vous a bien saboté l'exercice. Maintenant, vous allez vous installer là où nos politiques carentielles ont construit le désert. Ça, c'est trop facile, monsieur. Le problème, c'est que quand on met ça en place, on vit ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est le fait qu'on est en train d'explorer la possibilité de déconventionnement, c'est-à-dire de sortir de la convention et donc du remboursement sécu, etc., et que nous croulons sous les demandes des médecins qui veulent étudier cette solution, parce que là où la sécu protégée, elle est devenue mauvaise mère. Donc le problème est là. Il faut quand même qu'on soit conscient qu'on a bousillé ces professions et qu'il faut maintenant qu'on leur donne le moyen d'être attractive pour que les jeunes s'installent beaucoup plus vite. Je le disais tout à l'heure, il y en a 50 000 qui attendent de s'installer.
Oui, mais moi j'ai plein d'élèves qui sont devenus médecins, j'en ai d'autres qui n'ont pas réussi à un demi-point ou un point près. Je suis sûr que ceux-là, j'en connais quelques-uns, on leur a dit, on vous donne le concours, si vous allez en intérim médical, ils auraient sauté sur l'occasion. Donc je pense qu'il y a aussi le manque de postes, et si on avait augmenté le nombre de postes au concours et qu'on leur avait dit, on vous donne le concours, mais vous allez dans l'intérim médical, ils auraient dit oui.
Non, mais ça a été proposé à une époque, mais c'est une espèce de sélection par l'échec. Il n'est pas acceptable.
On prend les mauvais et les mauvais sont rattrapés.
C'est pas vrai parce qu'il y a des bons médecins.
Mais je suis d'accord avec vous. Il y a des jeunes qui se font coller avec 15 sur 20 qui auraient fait d'excellents médecins et plutôt que leur donner cette possibilité ou encore une fois plutôt que faciliter l'installation par l'attractivité. Aujourd'hui, on met des solutions palliatives qui visent à donner des actes médicaux à des professions qui sont pas formées ou en tout cas avec des formations médicales parcellaires pour remplacer les médecins.
Mais ça, c'est complètement fou. Olivier, il pose la question en fait. Soit on fonctionnarise les médecins, on peut en faire des fonctionnaires, des agents de l'État.
Soit un choix de société.
Là, c'est vrai quand même. Il a pas tort, Jean-Baptiste. On a un système un peu hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois ce sont des libéraux, mais ils sont dans un système très étatisés, administrés. On leur demande d'ailleurs de faire la bureaucratie.
Alors, d'où la voilà. demande légitime.
Donc, peut-être, non, mais peut-être qu'il faut trancher. Non, mais
il faut savoir. Il faut savoir comment ça fonctionne. C'est un système qui est socialisé. C'est un système qui est socialisé. C'est un système. C'est un système où on signe une convention. Moyennant quoi, on accepte d'avoir des actes plutôt modiques. En fonction de quoi on nous prend en charge une part de nos cotisations sociales, et donc on accepte un certain nombre de contraintes. Sauf que ce contrat est devenu léonin, puisque les actes n'ont pas été augmentés depuis des années. Et c'est ce que, et notre profession a été encadrée, réencadrée, alourdie, réalourdie. Et donc, au final, les jeunes médecins veulent sortir.
Tu disais que tu faisais 55 heures par semaine. Moi, j'ai pas mal de médecins autour de moi, pas mal de médecins généralistes, plutôt les jeunes, et qui veulent concilier vie pro, vie perso, qui veulent pas faire 55 heures ou 60 heures par semaine, qui veulent pas forcément bosser le week-end, qui seraient assez à l'aise dans le salariat. Bah, c'est peut-être pas la fonctionnalité.
Dans les centres de santé, c'est ça?
Bah, je veux dire, comment tu considères ça? Parce qu'on a l'impression que les jeunes qui arrivent, les jeunes médecins qui arrivent, ils veulent plutôt ça. Ils veulent plutôt, effectivement, se fonctionnaliser, ou en tout cas, se salarier et plus vraiment.
Parce que si je vais dans un restaurant et qu'on me dit que le serveur a craché dans la soupe, il est rare que je commande le plat. C'est-à-dire qu'on a bousillé tellement ces professions qu'effectivement les jeunes n'en veulent plus. Mais si tu les rends attractifs, ils iront. Les enquêtes qui ont été faites par les syndicats des jeunes montrent que plus de 70% des internes veulent de l'exercice libéral, à condition que dans les études on leur apprenne à gérer un cabinet, à condition que les tarifs soient les bons, à condition que la profession ait été nettoyée,
simplifiée,
etc.
À condition aussi de travailler dans les horaires un peu... plus personne ne travaille dans les horaires décalés. C'est pour ça que aussi c'est l'enfer, l'hôpital, c'est que tu ne trouves pas un médecin le week-end, tu ne trouves pas un médecin la nuit, si tu n'as plus ton médecin référent que tu pouvais appeler avant. Alors c'est vrai qu'il était peut-être corvéable à merci, mais c'était ça, un médecin
libéral.
Mais sur
le salariat...
C'était un médecin que tu connaissais.
Mais sur le salariat, l'hôpital...
Ça a disparu.
Mais sur le salariat, l'hôpital est un excellent exemple. Si le salariat était bien, tu n'aurais pas 30% de postes vacants de praticiens hospitaliers. L'hôpital
non, mais j'ai pas
de 20
ans.
Ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'on ne veut pas reconnaître nos soignants. Ce pays est merveilleux. Ce pays veut avoir la meilleure médecine du monde, mais il ne veut pas payer ses aides-soignantes, il ne veut pas payer ses infirmiers, il ne veut pas tarifer comme il le faut ses médecins. Il faut sortir de cette logique folle. Et cette logique folle n'a qu'une explication.
Parce que tout ça a un
cette
coût,
logique folle n'a qu'une explication. C'est qu'en 1996, M. Juppé a créé ce qu'on appelle l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui est une enveloppe contrainte à l'intérieur de laquelle on met les rémunérations et les tarifs des médecins, qu'ils soient à l'hôpital ou en ville. Et comme on ne veut pas dépasser cette enveloppe,
on ne
paye pas nos soignants.
Ans,
et l'ONDAM de la ville cette année a été voté par le Parlement avec une augmentation de 2,9% alors qu'on a une inflation à 6%. C'est-à-dire que là où la médecine s'effondre, le Parlement a décidé de moins donner à la médecine cette année que l'an dernier. C'est une faute.
Jérôme, l'auditeur, il pose une question importante. Il dit, moi, je suis citoyen et là où j'habite, c'est le désert médical. Et alors que je paye les impôts comme tout le monde.
Mais on
c'est-à-dire
le
qu'il y a une inégalité ressentie et perçue d'accès aux soins à laquelle il faut répondre. Et ça, c'est hyper important parce que c'est pas normal qu'il y ait une grande partie de la population qui n'ait pas accès à ces soins, d'où les 71% qui sont pour la contrainte.
Monsieur Barrault nous dit qu'il y a 18 fois plus de dermatos, je crois, il dit à Paris que dans l'heure. Tu trouves facilement un dermato à Paris, toi?
Et pourtant.
Essaye de prendre une consultation avec un dermato. Tu vas voir combien de mois il va te falloir. Les déserts sont partout. Et on fait, du Churchill. Churchill disait, en parlant des chiffres, des statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut.
Lionel est avec nous. Je remercie Olivier d'avoir pris la parole dans les GG. Olivier, professeur de SVT dans l'Orne. Lionel est dans le Loire-Atlantique, consultant digital. Ça n'a rien à voir avec proctologue ou gynécologue, Lionel, rassurez-moi, non hein.
Non, du tout. Bonjour les GG.
Bonjour.
Je suis intervenu plusieurs fois dans votre émission. Moi, je suis d'accord avec les arguments de Jérôme et Olivier.
Oui.
Dans le sens où il faut générer l'envie, l'attractivité, à la fois sur le plan professionnel, en leur fournissant des locaux modernes avec des matériaux modernes, mais aussi sur la vie familiale, les conditions de vie, donner envie, le plaisir, obliger les gens, ils resteront juste le temps nécessaire, ils resteront pas après, on se retrouvera de nouveau avec le problème. C'est surtout ça qui est important. Jérôme l'a dit, il faut donner envie de ce métier, c'est un métier important. J'en ai autour de moi qui sont en 4e, 5e année et qui se posent pas mal de questions. Hein. Il leur reste encore quelques années à faire. Voilà. Et donc, il faut vraiment leur donner l'envie de venir dans ces endroits où il manque.
Et comment faites-vous alors ? Comment faites-vous, vous, Lionel, justement, pour trouver des spécialistes vers chez vous en Loire-Atlantique alors ? Combien de temps vous attendez ?
Des beaux locaux, leur construire des locaux qui vont bien, leur permettre d'adapter aussi leur temps de travail, en leur donnant la possibilité de bien s'organiser pour pas forcément travailler 5 jours sur 5, une certaine liberté parce que certains ont un épuisement.
7 jours sur 7.
Donc Donc, et puis au niveau familial, ben, générer entre les crèches, les loisirs, et aider, accompagner aussi souvent le conjoint pour venir s'installer.
Et puis, cher ami, surtout comprendre ce qu'est cette profession. Et ça, les politiques, je le disais tout à l'heure, à force de la méconnaître, ils ont fini par l'oublier. Quand on voit Monsieur Valtou, qui a été à la tête de la Fédération hospitalière de France.
Maire de Fontainebleau,
qui fait passer l'autre jour un avenant à la loi Rist qui vise à obliger les médecins à faire la permanence des soins. Une permanence des soins qui est déjà organisée, qui fonctionne sur 90% du territoire. Quels sont les médecins qui font pas la permanence des soins? La plupart du temps, c'est des médecins âgés qui ont pris des gardes pendant 20 ans ou 25 ans, ouais, qui sont fatigués et qui disent, écoutez, maintenant, moi, j'arrête, je laisse les jeunes, moi, j'arrête parce que j'en peux plus. Ouais. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand cet avenant est passé? Bon, elle n'est pas encore passée, la loi. Elle est en train de faire des allers-retours avec le Sénat. Mais quand cet avenant est sorti, moi, je n'ai vu que des gens dire, ah, tu veux m'obliger, moi? Mais je vais arrêter. Je vais arrêter parce que j'en peux plus. Donc voilà le risque de faire des avenants juste pour faire parler un petit d'accord, peu de soi, mais sans comprendre une profession.
Oui, d'accord, mais pour tous ces gens qui attendent des rendez-vous, qui veulent avoir des médecins, à quel horizon on leur donne? Parce que c'est ça.
Mais si tu fais ce que je t'ai dit tout à l'heure, favorises les installations des jeunes, mais t'en as des milliers qui attendent. Milliers. On est devenu fou dans ce pays, quoi. On accepte que les jeunes mettent 10 ans à s'installer.
Et sur un an, deux ans, tout le, il n'y a plus de désert médical.
Mais bien sûr, à condition aussi que tu fasses de l'aménagement du territoire une priorité nationale. C'est-à-dire que partout où tu as un désert qui est apparu, tu dises, mais enfin, pourquoi ils sont partis? Cette question-là,
quand même,
réfléchissez. Réfléchissez, on parle des déserts médicaux tous les jours, il n'y a pas un seul politique qui pose cette question. Mais enfin, pourquoi ils sont partis, les médecins, à cet endroit? Ils étaient là il y a 20 ans, ils sont
mais
plus
là. Mais il n'y a pas que les médecins qui sont partis, les trains ont cessé d'arriver, commerces ont disparu, les écoles
Mais ce qu'on voudrait imposer aux médecins, alors dans ce cas-là, imposons-le aux boulangers, il faut à tout prix
à la poste, aux impôts,
demandons à l'État de ne pas déserter ses territoires.
Non mais
voilà, donc
combien de guichets,
ce qu'on demande pas aux autres.
Non mais combien de guichets ont disparu aussi, mais c'est vrai que je pense que c'est un ensemble, c'est-à-dire que il faut commencer quelque part par quelque chose. Peut-être que l'idée d'avoir des médecins dans les déserts de nos territoires, c'est un ensemble, ça peut pas être que les médecins.
Alors, j'ai quand même une question, Jérôme. Il n'y a pas de télébaguette, tu vois. En revanche, la téléconsultation ou le télésuivi des patients, ça existe pas beaucoup en France. Ça a pas mal monté pendant le Covid.
Oui.
Et ça, pour le coup, c'est pas très compliqué. Il y a quand même plein de choses que tu pourrais faire.
Ça existe,
en ligne.
Ça a bien augmenté. Il y a un risque à la téléconsultation, ouais, qui est celle d'une espèce de médecine low cost, plateformes commerciales. Parce que ta téléconsultation, elle est valable si tu connais le patient. Ouais. Parce que tu tamponnes un examen qui est incomplet par ta connaissance du patient. Quand tu le connais pas, la consultation, 5 minutes douche comprise, rapide, sans connaître le patient.
Faut l'encadrer,
t'as besoin de l'encadrer beaucoup, parce que la finance met dessus.
Moi, je l'ai fait, c'est très grave, hein. Franchement, c'est très, très grave. Moi, je l'ai fait, moi, j'ai fait téléconsultation pour des douleurs au dos que j'avais. J'ai fait de loin, parce que je trouvais pas de médecin. J'ai fait, désolé, mais j'ai quand même un cancer, quoi. Voilà, parce que on m'a dit que c'était un lumbago, que c'était machin. Ouais. Et voilà, parce que j'ai pas, voilà.
La téléconsultation, c'est-à-dire que tu touches pas le patient.
Non, c'est super dangereux.
Et tu penses que du coup, t'as été diagnostiqué trop tard.
Ah bah oui, forcément.
Quand tu vas voir un médecin, tu sais pas ce que tu as. Ça peut être quelque chose de bénin, mais finalement,
c'est un suivi. Tu as le télésuivi patient.
Non, c'est chaud.
Je pensais quand même que le médecin t'a vu,
des certificats.
Voilà, moi je pense que
Jérôme décrit un gros,
la modernité, la technicité, ça peut être un apport, comme ça peut être le plus grand.
Tu crois pas beaucoup vraiment.
Nous, on avait proposé notre solution très rapide. On avait dit, si j'alloue, moi, 7 ans de ma vie aux déserts médicaux ou à aller aider à l'hôpital, un jour par semaine, admettons, à ce moment-là, je bénéficie de ce qu'on appelle le secteur 2, c'est-à-dire les honoraires complémentaires. Et on fait payer les mutuelles, qui sont le plus grand scandale sanitaire chronique depuis des années et des années, où quand tu payes 100 euros à une mutuelle, elle ne rend aux soins que 55 euros. Où sont les 45 euros qui manquent?
Merci Lionel d'avoir participé à notre discussion.
Est-ce qu'on peut faire un bisou à Lysandre? Je voudrais qu'on fasse un bisou à Lysandre qui a 3 ans. Sa maman m'a envoyé un message. Elle est fan des GG. Et depuis que son petit est né, elle regarde les GG. Et quand il y a le jingle, et ben Lysandre, il est tout content.
Et ben bisous à Lysandre.
Donc,
voilà.
On l'embrasse depuis le plus jeune âge.
Voilà.
Faut-il oublier, médecins libéraux à s'installer dans les déserts médicaux? Oui, non, oui, non, alors, oui, non, oui, non. Attention, résultat final.
On a perdu un point. Bravo Jérôme.
70-30, c'est quand même le oui qui l'emporte.
C'est normal.
À l'obligation, majoritairement pour Jean-Baptiste et pour Zora.